voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Valo, donc l'émission s'appelle La Voix du Kaizen. Dans cette thématique rurale, agricole, paysanne, on rencontre différents petits producteurs qui nous parlent un petit peu de leurs projets, de leurs démarches. Et là, on est en Ardèche, près de La Blachère, dans les jardins de Terre et Humanisme, avec Valo, qui est, je crois, un des pionniers ici. Tu es arrivé au tout début de l'aventure.
Non, pas tout à fait, non. Je suis arrivé en 2007. Donc les jardins, ici, Terre et Humanisme existent depuis 8 ans. Les jardins ont été, la maison a été achetée en 99, les jardins ont commencé en 2000. Donc il y avait déjà une petite dynamique qui avait été lancée. Mais Terre et Humanisme et Pierre Rabhi étaient peu connus, il y avait peu de salariés, peu de monde venait. Donc les jardins, ils étaient très petits, c'était vraiment le démarrage. J'ai été embauché en 2007, quand Pierre Rabhi commençait à se faire plus connaître. Et donc il y avait un petit peu plus de monde, un peu plus d'adhérents, une dynamique qui montait un peu. Et j'étais engagé avec Eric, mon collègue, en 2007 pour continuer l'aventure qui avait commencé avec Terre et Humanisme et lui donner une nouvelle dimension. Au départ, ça avait commencé très, très petit. Donc on a été embauché pour restaurer complètement l'écosystème et transformer des terres incultes en jardins potagers et partager ça avec des gens.
Donc là, c'est de l'ordre de l'expérience. Hein. Vous récupérez une terre qui, à cette époque, n'était pas du tout ce qu'on voit autour de nous. Donc là, c'est vert, c'est fleuri, c'est diversifié. Mais avant, c'était de la pierre. Et donc, l'idée, c'était de transformer cet écosystème pour montrer que c'est possible, en partant de rien, de faire quelque chose d'incroyable.
Oui, c'était le but de Terre Humanisme, de partir de la terre la plus ingrate, une ancienne vigne, dans un endroit où il n'y avait pas peu d'eau, dans un endroit où les terres sont les plus ingrates, pour montrer qu'on pouvait transformer complètement ces terres et les rendre fertiles. Et ben, ça a pris des années, parce qu'on est parti vraiment du terrain le plus ingrat qu'il était possible de trouver. À côté de ça, c'était pas une expérience, parce qu'on savait très bien que c'était possible. Il suffisait juste d'avoir un endroit où le démontrer.
Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu fasses partie de ce projet? Pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans?
Moi, je suis belge d'origine, j'habitais dans une banlieue industrielle, Liège, vallée de la Fensch pour ceux qui connaissent dans le nord-est, Saint-Étienne, les cycles Saint-Étienne, banlieue industrielle métallurgique entièrement polluée, où je ne trouvais pas une vie qui me convenait. Donc j'ai cherché un endroit où m'installer et j'ai trouvé en Ardèche un endroit, je vais dire, comme de liberté, où il y avait moyen de développer ces alternatives et où pas mal de gens avaient déjà commencé 20 ans avant moi à développer des alternatives et ils m'ont donné un sacré coup de main, quoi. Et donc j'ai choisi de laisser tomber le mode de la consommation, le monde du capitalisme qui ne me convenait pas du tout, pour habiter dans un autre espace où il y a moyen de construire sa vie telle qu'on avait envie. Donc je suis arrivé en Ardèche en 94. Je ne connaissais absolument rien en jardinage, ni en construction d'ailleurs. Je sortais de la ville, j'avais juste fait les beaux-arts. J'ai acheté un terrain, une ruine, et j'ai retapé ma ruine, j'ai fait mes propres jardins. Et j'ai appris un petit peu sur le tas, avec des petits coups de main et tout à gauche, à droite, pendant des années. Et puis je suis arrivé à Terre Humanisme en 2007, pour un petit stage pour me perfectionner. Je voulais me perfectionner dans la pépinière pour produire plus de plants, des plants sains, de bonne qualité, résistants à la sécheresse. Le jardinier qui était à l'époque était démissionnaire, il voulait plutôt partir dans un autre pays, changer d'aventure. Donc j'ai été embauché à cette époque-là pour reprendre les jardins de Terre et Humanisme. Et j'étais le premier surpris que j'étais un bon jardinier, parce que je n'imaginais pas du tout.
Et quel est ton rôle aujourd'hui au sein de TH Terre et Humanisme?
Mais pendant des années, j'ai transmis ce que j'avais appris sur le tas, et par des lectures par après, sur comment transformer les sols, comment produire un plant de tomate, mais produire des fleurs. Pour moi, toutes les plantes sont identiques. Que ce soit un arbre fruitier ornemental, un couvre-sol, n'importe quelle plante, toutes les plantes me plaisent. Donc j'ai le plaisir de cultiver des tas de plantes différentes. Donc au début, j'étais payé pour transmettre mes connaissances sensitives et un petit peu intellectuelles aux stagiaires, aux bénévoles d'abord. et pour progressivement de plus en plus aux stagiaires. Et finalement, je suis devenu de plus en plus formateur, puis finalement, on m'a demandé d'écrire un livre. Je fais de plus en plus de formations, je crée des formations, et maintenant, je fais de plus en plus d'expérimentations sur des nouvelles préparations qui peuvent nous aider à aller plus loin dans la compréhension du vivant et dans l'aide à la nature.
Donc Terre et Humanisme, c'est un peu un lieu-école, une sorte de laboratoire d'expérience, avec un mot dont on entend souvent, tu en as parlé, l'agroécologie. Est-ce que tu peux me parler de ce que c'est, de ce qu'est l'agroécologie, à quel moment est-ce que ce terme est apparu? Parce qu'aujourd'hui, il est devenu politisé, mais je pense qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, personne ne connaissait le terme d'agroécologie.
Exactement, le terme agroécologie, je ne le connaissais pas avant d'être embauché à Terre et Humanisme en 2007. C'est un mot tout nouveau qui a été inventé, qui a été repris par Pierre Rabhi en France. Il y a beaucoup d'agroécologie, surtout en Amérique centrale, hein, en Amérique du Sud. C'est un peu un nouveau concept qui a été inventé dans les années 90. Pourquoi ? Quand on regarde bien dans l'historique, si on voit la charte de Nature et Progrès qui date de 1964, eh ben on retrouve tous les préceptes de l'agroécologie. Les premières agricultures bio qui ont commencé à militer pour écologiser l'agriculture dans les années 60, ils avaient une vision agroécologique, alors que le mot n'existait pas encore. Et ça s'appelait agriculture biologique. Malheureusement, depuis, on a fait un label, d'abord un label national, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, de partout, où on a complètement éliminé beaucoup de demandes des agriculteurs. Et une fois que le label bio est devenu à l'échelle européenne, ça s'est réduit à ne pas mettre de produits chimiques de synthèse dans les jardins. Or, la vision était beaucoup plus, globale dès les années 60. Le circuit local, le lien entre le producteur, le consommateur, toutes ces petites dimensions étaient déjà dans l'ordre du temps. Mais comme le mot agriculture biologique a été galvaudé, il a fallu inventer de nouveaux termes. Et maintenant, on a agroécologie depuis 20 ans, et ben les gouvernements reprennent, Stéphane Le Foll, et puis d'autres, il y a agroécologie qui sont mises à toutes les sauces. Donc voilà, dans 10 ans, il faudra créer un nouveau concept pour dire la même chose que nos prédécesseurs racontaient il y a 50 ans.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire une agriculture plus naturelle, un rapport entre le producteur et le consommateur, le lien sur la production locale, comment gérer ces matières organiques au niveau local. Tout ça était déjà dedans, quoi. La dimension humaine et la dimension agricole étaient déjà dans l'agriculture biologique il y a 50 ans.
Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression de revenir un petit peu, enfin que les ancêtres savaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à un moment donné, dans le chemin du développement, on a pris une direction qui a été néfaste pour les sols, pour l'alimentation, pour l'homme? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Nos ancêtres, on va essayer de retrouver ces techniques qu'ils avaient déjà, mais pourquoi est-ce qu'on est sorti des rails à un moment donné?
C'est un peu compliqué comme question, il y en a plusieurs l'une dans l'autre. Et j'aime bien le concept de nature et progrès, parce que nature, il y a le côté naturel, mais sans faire abstraction du progrès. Or, l'agriculture conventionnelle est partie dans le progrès, le progrès, le progrès, le progrès. Les paysans, ils étaient plus dans la nature, vivre avec la nature, avec les concepts qu'ils avaient de l'époque. Il y a eu un gros retour à la terre dans les années 70, qui a été démoli complètement dans les années 80 par le culte de l'argent et tout, et décrédibilisé toutes les alternatives et tout. Et donc les médias ont une grande part là-dedans, quoi. Et il a fallu attendre très 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 longtemps avant qu'il y ait une nouvelle prise de conscience des gens, de dire oui mais le monde capitaliste, la globalisation, la mondialisation, qu'est-ce que ça nous amène? Que des pollutions, que des problèmes, que de la misère. Et donc on a été un petit peu victime des médias et il y a eu de gros enjeux là-dessus, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Valo, l'agroécologie expliquée à un enfant. Voilà, j'ai 7-8 ans, je viens de te demander, Valo, qu'est-ce que c'est l'agroécologie?
C'est regarder comment la nature fonctionne, regarder les petites bêtes dans le jardin, regarder comment les plantes elles poussent, essayer de comprendre ça et de vivre avec elles tout simplement, quoi. Et même s'il y a des petites bêtes qui nous embêtent, on va comprendre comment est-ce que la petite bête qui nous embête fonctionne pour qu'elle ne nous embête plus et qu'elle aille vivre un petit peu plus loin. On nourrit la limace dans nos jardins. On ne chasse pas la limace, on la nourrit dans un coin de manière à ce qu'elle ne gêne pas nos cultures. Il y a place pour tout le monde dans notre jardin.
Donc c'est vraiment retrouver une sorte d'écosystème où chacun peut cohabiter sans se déranger.
Bah, tout à fait, parce que tout le monde a son utilité. La limace est utile au jardin. Elle est là pour manger les végétaux qui sont faibles, les végétaux en décomposition. Elle est très utile au jardin, la limace. Et si la limace mange vos jeunes salades, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Parce que les limaces, elles aiment pas les jeunes salades. Elles aiment bien les végétaux en décomposition. Mais s'il n'y a rien à manger pour elles, elles se rabattront sur vos cultures.
C'est intéressant. Donc la limace a sa place aussi dans le jardin.
Tous les ravageurs ont leur place dans le jardin. Toutes les bêtes ont leur place dans le jardin. Alors je me pose encore des questions. Ça reste encore... C'est pratique, on le voit au quotidien. On gère la limace au quotidien comme ça. Je me pose encore des questions sur la tique et le frelon.
Valo, j'entends dire que, ou une grande question autour de l'agroécologie, est-ce que l'agroécologie pourra nourrir tous les hommes sur la planète ? Parce que quand je regarde ici ce qui se passe, c'est beau, mais qu'en est-il en termes de production ?
La terre est pas mal productive sur les espaces qu'on arrive à explorer, à exploiter. On a un rendement qui est vraiment, vraiment pas mal et qui a bien augmenté pendant les années. Mais nous, on a une grosse limite, c'est la quantité d'eau. Alors, on ne fonctionne qu'avec l'eau de pluie, donc on a vraiment une limite par rapport à l'eau. C'est la grosse question de l'avenir de l'agriculture, la qualité de l'eau, la quantité d'eau, la disponibilité de l'eau. Sinon, la productivité, il n'y a pas de souci, quoi. Donnez-moi le double d'eau, je double la production sans aucun souci. Sans aucun produit chimique, sans bouillie bordelaise, sans soufre, rien qu'avec des tisanes et des produits naturels.
On arrive à faire face à ce que tu appelais avant des ravageurs.
Oui, les ravageurs, il y en a beaucoup moins maintenant. Dans un écosystème équilibré, il y a très peu de ravageurs, très peu de maladies. L'écosystème supérieur, on va dire la végétation, nourrit les auxiliaires qui viennent nous aider au jardin. Pareil, la vie du sol, plus la vie du sol est intense, moins on a de problèmes de maladies pour les plantes.
La vie dans le sol, cette notion de vie dans le sol, elle est plus ou moins nouvelle aussi, parce qu'on n'en parlait pas pendant longtemps, que le sol est quelque chose de vivant.
On n'en parlait pas, on n'en parlait plus. Le premier documentaire sur l'importance du ver de terre et du crapaud dans les jardins, je peux te montrer le film, il date de 1930. C'était encore muet. C'était du Charlie Chaplin avec les petits panneaux noirs et blancs qui expliquaient l'importance du ver de terre et le ver de terre qui était filmé. Donc il y avait déjà conscience en 1930 que le début du conventionnel posait beaucoup de problèmes et que certains agriculteurs relevaient justement ces problèmes du début de la chimie, dès 1930.
Et après, qu'est-ce qui s'est passé ?
Après, les scientifiques, hein. Les scientifiques qui sont venus, les ingénieurs, etc., avec toute la façon rationnelle de considérer les choses, de morceler les choses, parce que le scientifique, il sait partout, il met tout dans des petites éprouvettes et il analyse les choses séparément. Nous, on a une vue holistique, globale des choses, et tous les êtres vivants vivent ensemble. Que ce soit les micro-organismes, les insectes, les mammifères, les oiseaux, les batraciens, les plantes et autres, vivent ensemble. Et l'interaction entre tous ces êtres vivants, c'est ça qui est intéressant. C'est là qu'on peut trouver quelque chose, et pas en les isolant. Et l'étude de l'interaction entre les êtres vivants, ça s'appelle l'écologie. Moi, je suis écologiste. Hein. Depuis tout petit, je suis écologiste. Agroécologie me plaît, mais... Je voyais pas pourquoi il fallait inventer un nouveau mot. Écologie a été galvaudée par les partis écologistes, encore une fois. Rendons le vrai sens des mots, et ce n'est pas seulement vrai pour écologie, agroécologie ou d'autres mots, c'est au quotidien, dans tous les domaines, rendons la vérité des mots au sens étymologique, et là on se comprendra.
On va faire un tour après dans le jardin, j'aimerais que tu montres un endroit que tu aimes bien ici, que tu me le présentes et que tu recrées à l'auditeur une dimension visuelle. Mais avant d'y aller, donc ici on est dans ces jardins-écoles, hein, Terre et Humanisme, un centre de formation. Toi qui es là depuis le début de l'aventure, est-ce que tu vois un engouement pour l'agroécologie ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent ici ? Est-ce que tu vois vraiment une sorte d'évolution des mentalités ?
Oui, énorme. Énorme, ça bouge beaucoup. Ça bouge énormément. De plus en plus de gens se rendent compte que le monde qu'on leur avait promis de la globalisation et que le commerce allait tout régler, ils se rendent compte que ce n'était pas ça. Mais on reste encore ultra minoritaire. On était très 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 minoritaire il y a 20 ans, 30 ans. On l'est un petit peu moins. Mais à côté de ça, comment est-ce que je pourrais qualifier ça, les forces de destruction de la planète, le capitalisme, les grands groupes, les lobbies, etc. et tout sont devenus beaucoup, 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 beaucoup plus forts. Et une grande masse des gens suivent ce modèle. Donc, même si on est un petit peu plus nombreux à essayer d'aller vers le plus naturel, le plus écologique, en face, les barrières sont de plus en plus hautes et de plus en plus dures à franchir.
Dans les rencontres que je faisais, on parlait d'agriculteurs qui sont passés au stade d'exploitants agricoles, qui sont presque des fonctionnaires. Est-ce que tu vois des agriculteurs qui font de la productivité, qui ont envie de changer de mode de production et qui viennent ici pour se former, pour voir comment faire autrement sur leur parcelle?
On voit quelques agriculteurs, mais c'est pas le plus nombreux. Parce que Terre Humaniste s'est toujours adressé plutôt aux particuliers, aux jardiniers, etc. Mais comme quelques agriculteurs viennent, et depuis quelques années, Terre Humaniste propose des formations pour les agriculteurs. Donc ça commence un petit peu à se mettre en place, quoi. Mais de plus en plus d'agriculteurs sont quand même très 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 conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut faire évoluer les choses. En Ardèche, ça va. Il n'y a pas de grosse exploitation. C'est quand même beaucoup de paysannerie à l'ancienne, donc beaucoup en pluriactivité, qui était une forme d'agroécologie à l'époque, même s'ils n'avaient pas les mêmes connaisseurs scientifiques et qu'il y avait deux, trois petites choses à jouer, quelques paramètres à ajuster. Ils étaient pas mal comme dans la connaissance de l'environnement et tirer une productivité de leur environnement, quoi. Donc on n'est pas dans l'agriculture conventionnelle industrielle ici en Ardèche. Et donc c'est pour ça que ça évolue peut-être un petit peu moins vite avec les agriculteurs locaux. Par contre, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs dans la Drôme, de la Bio-Vallée, etc. Là, il y a une grosse prise de conscience et ça se joue sur des milliers d'hectares. Et là, ça commence à vraiment devenir intéressant parce que ça commence à montrer un modèle à grande échelle reproductible à d'autres régions.
Valo, tu me parlais des mots, de l'étymologie des mots. J'aimerais que tu me définisses quelques termes. Le mot agriculteur, le mot paysan et le mot jardinier.
Agriculteur, qui cultive la nature. Le jardinier, le jardin, ça vient, le jardin, c'était l'endroit enclos à côté de la maison où on faisait pousser le potager. Donc le potager, c'était toutes les plantes qu'on mettait dans le potage.
Et paysan?
Et paysan, c'est celui qui vit au pays. Moi, je suis paysan, je suis pas producteur.
Mais t'es jardinier aussi?
Je suis jardinier, mais je suis paysan, je vis dans le pays. Et même si je ne vis pas de ma production agricole, parce que je travaille beaucoup à Terre Humaniste sur la formation et tout, j'ai mon jardin potager, j'ai mes fruitiers, etc. et tout, mais je vis dans le pays, c'est ça le paysan. Il n'est pas spécialement agriculteur pour moi.
Et ici, à TH, Terre Humaniste, c'est quoi? C'est un jardin? C'est un potager? On est où là?
C'est un jardin pédagogique. On pourrait faire mieux au niveau de la production, on pourrait faire mieux sur beaucoup de choses, mais comme on travaille avec des novices ou des jeunes jardiniers qui n'ont pas beaucoup d'expérience, on a besoin de prendre du temps, de leur montrer les gestes, etc. Donc on ne peut pas partir en pleine productivité. En 15 jours, le jardin serait rempli et il n'y aura plus de place pour les autres. Donc on est vraiment dans la pédagogie ici.
Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui sur ce lieu de Terre Humaniste?
Beaucoup de choses. On fait du potager, mais le potager, c'est un petit peu la base. Donc les gens ont envie d'apprendre le jardin à cultiver leurs légumes, qu'ils soient stagiaires ou volontaires. Mais au-delà de ça, en travaillant dans le jardin, on travaille beaucoup sur la conscience politique, moi j'ai l'impression. On développe beaucoup de thèmes autour de l'autonomie, de l'indépendance, etc. Et plus on parle le jardin, plus on remet en cause notre manière de fonctionner dans la société.
Donc jardiner, c'est presque un acte de résistance?
Oh, complètement. Complètement. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça remet beaucoup, beaucoup de choses en condition, quoi. Et la première chose, la septille. Il faut aseptiser, il faut lutter contre le vivant, il faut tuer les maladies, il faut stériliser nos habitats pour mieux vivre. Dès qu'on est malade, il faut manger des antibiotiques. Alors au contraire, nous on vit avec la vie. Moi j'ai mes mains dans le fumier toute la journée, avec des plaies, des bosses et tout, dans le fumier, dans la gadoue, dans les toilettes sèches et de partout. Je vis pas en conditions aseptiques, et pourtant je vis très bien. Tout est une question de terrain. Donc c'est rééquilibrer les choses, vivre avec le vivant, travailler avec le vivant et pas contre le vivant. Ce que nos sociétés ont fait pendant les dernières décennies, quoi. Vivre en Ardèche depuis très longtemps, bon, je me rends plus compte du décalage dans lequel sont les gens des villes par rapport à la réalité naturelle, je vais dire, hein.
Valo, on est donc dans ces jardins. Je vais te demander de m'emmener quelque part que t'aimes bien. Dans ces jardins écoles, jardins pédagogiques. Parce qu'il y a plein de choses différentes. J'ai vu que là-bas, il y avait le jardin de la biodiversité, je crois. Ouais. Là-bas, t'as une serre. Donc peut-être, ou peut-être avant de nous emmener, juste recréer, essaie de recréer une dimension visuelle. Tu vois, si quelqu'un arrive là, s'arrête hein, sur le parking, là où il y a les voitures qui sont garées, et vont rentrer dans les jardins, qu'est-ce qu'ils vont voir?
Ils vont voir gros foutoir végétal. Alors, il y a encore un visiteur qui me l'a dit de ce matin. Il devait avoir 75 ans. Pour lui, ça le choquait de voir autant d'anarchie végétale, tout. Je lui ai répondu, t'as vu le jardin là-bas, le verger potager? Tu vois légumes? Il me dit non. Et je dis, ben, les ravageurs non plus. Tout simplement. Quand on est un jardin conventionnel, bien désherbé et tout, vous visitez le jardin, et vous dites, voilà les tomates, voilà les haricots, voilà les patates, voilà les salades, la visite du jardin est terminée, au revoir. La visite d'un jardin conventionnel, elle dure 2 minutes maximum. Alors qu'ici, on peut passer 1 heure, 2 heures sur 100 mètres carrés et raconter des tas de choses de ce qui se passe entre les plantes sauvages, les aromatiques, les légumes, les petits insectes et tout ce qui tourne autour. C'est un monde en soi où il se passe énormément de choses, quoi. Et c'est ça que j'apprécie dans les jardins ici.
Donc toute ta connaissance est basée sur quoi? Sur l'expérience, en fait?
Oui, l'observation et un petit peu de paresse.
Pourquoi la paresse?
Pourquoi la paresse? Parce que le paresseux, il fait bien les choses pour ne pas les recommencer, déjà. Et puis, de temps en temps, on est un peu fainéant et on dit, bon, là, il faudrait intervenir, mais on va attendre 2-3 jours. Et quand on revient 2-3 jours après, on voit qu'il n'y a plus de problème. Nos problèmes, ils étaient surtout mental, quoi. Donc, surtout, c'est observer. Quand on voit une plante malade, une plante qu'on a mis, et qu'elle est malade, on culpabilise. Donc si je culpabilise, je me rue dans le premier magasin venu qui me vante n'importe quel produit et j'en mets partout. Si je suis un peu plus intelligent, je vais voir sur internet pour des remèdes naturels pour traiter. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de traiter? Observons comment ça se passe et la régulation se passe. N'importe quel insecticide, n'importe quel fongicide est toxique pour le jardin. Maintenant, parfois, quand il y a une culture qui est menacée parce qu'on a un déséquilibre, il faut intervenir, mais il faut réfléchir 3 fois avant d'intervenir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de sauver cette culture? Si elle est trop moche, ça sert à rien d'intervenir, elle ne sera pas bonne à manger. Donc, on est un peu entre limite entre les deux, et voir comment est-ce que les phénomènes de régulation peuvent se mettre en place.
Et donc, pour en revenir encore une fois ici au jardin de TH, ce lieu de formation, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en partant de pas grand-chose, tu arrives complètement à recréer et à redynamiser des écosystèmes et que cette expérience-là peut être reproduite dans des pays différents, comme notamment, je crois, pas mal de projets au Sahel.
De partout, hein. La nature améliore la nature. Le végétal améliore les sols. La terre était un caillou et il n'y avait pas de végétaux. Et puis, il y a une colonisation par les cailloux. Quand on arrache un endroit, qu'on le démolit complètement, on voit qu'il y a une flore qui revient progressivement. Et il y a plusieurs étapes successives de colonisation par des végétaux. Chacun apporte quelque chose pour laisser la place au suivant, pour arriver au climax qu'est la forêt. C'est les perturbations humaines ou climatiques qui peuvent abîmer les sols. Mais si on laisse faire la nature, si on laisse faire les plantes, le sol s'améliore. Et d'un désert, on aura un jour une forêt. Sauf si le système climatique ne le permet pas. Partant de ce concept-là, que les végétaux améliorent les sols, les transforment et font de l'humus, ça peut prendre des années, beaucoup d'années. Hein. Nous, on a amélioré ça avec notre technique agricole, le compost, le paillage, les engrais verts, restaurer l'écosystème. On reproduit les systèmes naturels, mais amplifiés pour aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Il a fallu 10 000 ans en Europe pour faire 1 mètre à 4 mètres d'humus, hein. Après la dernière glaciation, à moins de 10 000 ans, il n'y avait plus que du caillou. Et au Moyen-Âge, l'Europe était une forêt dans laquelle un écureuil pouvait partir du nord de l'Europe et aller à Gibraltar sans mettre le pied par terre. C'était une forêt immense. Et cette forêt, elle est née de la colonisation des végétaux pendant 10 000 ans. Nous, avec nos connaissances, on essaye d'accélérer le processus et rendre une terre fertile en 2, 3, 4, 5 ans, selon un peu... la pauvreté des sols.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Valo, emmène-moi dans un endroit du jardin que tu aimes bien.
On pourrait aller dans la biodiversité voir un petit coup d'œil.
Allons dans la biodiversité. Là j'observe, il y a plusieurs choses, je vois une spirale, je vois de la paille et je vois du, comment t'appelles ça, du BRF, du bois radial fragmenté?
Non, du broyat. Le BRF c'est une technique très spéciale, il faut le mettre, le broyat frais en automne, l'incorporer au printemps et tout, c'est une technique très 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 spéciale qui peut être très 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 utile dans certains cas, qui a malheureusement été érigée en formule magique à une époque sur internet. Plein de gens l'ont fait, plein de gens se sont plantés parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas compris la vie du sol, ils n'ont pas compris la dégradation de la matière organique, ils ont appliqué une recette magique qui ne s'applique pas de partout. Mais le BRF est très 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 utile dans certains cas. Nous on utilise beaucoup de broyat pré-composté, et donc on a moins de soucis qu'avec les BRF. La paille, ben, toujours du broyat ou de la paille pour protéger de l'évaporation. On a décidé de faire coexister plein d'espèces végétales différentes, aussi bien sauvages, ornementales que des légumes. Et de concentrer tout ça et de mettre une troisième dimension et tout. Sur ce petit espace qui fait un peu plus de 50 mètres carrés, on peut se promener pendant une heure et on loupera encore des choses. On le visite dans le sens inverse, on ne verra pas du tout la même chose. Il y a des zones de plein soleil, des zones de pleine ombre, des zones humides, des zones sèches, et chaque plante peut trouver sa place. Et donc c'est un jardin un peu foutoir, bordélique, anarchique, on a entendu tous les qualificatifs. C'est le jardin où on a eu le moins de problèmes d'insectes, le moins de problèmes de maladies, le plus productif dès le départ, grâce à la coexistence de tous les végétaux ensemble qui s'entraident.
Donc c'est vraiment, en fait, dans l'équilibre dans un écosystème, c'est lié à la diversité.
Totalement, complètement.
Est-ce qu'on pourrait appliquer ce principe de la diversité à l'espèce humaine dans un monde où on est en train de tout uniformiser, alors qu'on comprend aujourd'hui que la stabilité, c'est dans la diversité, l'homme est en train d'aller vers sa propre perte?
Complètement. Alors complètement, je te le fais pas dire là. Et là, il y a gros souci de concentration humaine dans certains coins. Alors maintenant, comment refaire de nouveaux villages, refaire de nouveaux lieux pour que la population humaine puisse s'étendre un tout petit peu et recréer des conditions un peu plus écologiques de vie? C'est une grande question, quoi.
Oui, ou alors faut que ça vienne de la société civile d'elle-même, que les gens reprennent un peu les rênes de leur vie, et peut-être que, enfin, on observe ça, cette quête de sens, beaucoup de gens aujourd'hui ont envie de donner un sens différent et reviennent vers des modes de vie un peu plus simples.
Ouais, sauf que le problème, c'est le foncier. Je connais plein de gens qui veulent s'installer, mais le foncier, ça coûte très cher. Et il n'y a personne qui veut lâcher prise. Les gros agriculteurs conventionnels qui ont des plaines sur des milliers d'hectares qui ne veulent pas lâcher prise. Donc, quand on achète un terrain, qu'on arrive à trouver un petit bout de terrain quelque part, c'est pas une bonne terre agricole, ils les gardent pour eux-mêmes. Quand on achète un terrain avec une petite maison, on se retrouve avec les pires terres qui soient. Et il faut transformer les sols. Et les plaines agricoles pendant ce temps-là, elles continuent d'être bétonisées, asphaltisées de partout pour mettre des grandes surfaces, des banlieues résidentielles et tout. Avant, les villages se faisaient sur le caillou et on cultivait la plaine. Maintenant, on bétonne la plaine et on cultive sur le caillou. Parce que bétonner la plaine, c'est plus facile pour amener des machines. C'est illogique. Mais au départ, on avait le purin d'ortie, le purin de consoude, tous les extraits fermentés, c'était riche en micro-organismes. On dit le purin d'ortie, l'ortie c'est riche en azote, ça fait pousser les plantes. Mais pas seulement, c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, c'est riche en silice et c'est riche en micro-organismes. Quand on passe un extrait fermenté d'ortie ou de consoude sur un sol et qu'on fait une analyse, on voit 1000 à 100 000 fois plus de micro-organismes dans le sol une semaine après. Donc c'est toujours travailler sur la vie des sols avec des solutions locales.
Pour terminer, quelque chose qui pour toi est inspirant, soit une citation inspirante, soit une petite histoire, un conte, une fable.
On est là pour réaliser nos rêves. Moi, un truc qui m'a plu, c'est Oasis en tout lieu. J'ai pas lu le livre de Pierre Rabhi, désolé. J'ai vu le concept Oasis en tout lieu et je me suis dit, ça c'est un concept. Je me fais mon oasis, je me fais mon lieu de vie et je suis là pour me créer mon rêve, me créer mon lieu, envers et contre tout et rien qui m'arrêtera. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Ardèche, au milieu d'un jardin qui fait un demi-hectare avec plein d'espèces végétales et plein de fleurs, et où on a plaisir à vivre.
C'est ça le bonheur?
Créer ses rêves. Rêver, c'est beau. Réaliser ses rêves, c'est mieux.
Merci Valo.
La voix du Kaizen. une émission de Kaizen Magazine.